Europe 1. Europe 1,
14h, 15h,
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle non élucidée. Une affaire de 1998, l'affaire Paquita Parra. Du nom d'une jeune fille de 30 ans que l'on retrouve carbonisée dans sa voiture le 3 décembre 1998, il y a donc aujourd'hui exactement 20 ans, dans la vallée des Eaux Vives, près d'Angoulême. On a cru à un moment, quelques semaines après le crime, avoir arrêté le coupable, mais il a été innocenté et la juge d'ailleurs qui l'avait mis en examen a été accusée de partialité et dessaisie du dossier d'enquête. Pour le débrief tout à l'heure, je reçois le frère de Paquita Parra, David Parra. Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Ondelatte.
Vous nous direz tout à l'heure ce que vous attendez de la justice 20 ans après et s'il y a encore quelque chose à en attendre. Voici donc l'histoire de Paquita Parra que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
14h-15h, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Je vous emmène un soir de décembre 1998 dans la vallée des Eaux Claires, à Puymoyen, près d'Angoulême. Au bord d'une petite rivière dominée par une trentaine de gros rochers de près de 20 mètres de haut. Un spot d'escalade très connu dans la région. Un endroit absolument magnifique de jour, mais totalement sinistre de nuit. Et là, il est 3 heures du matin. Il fait nuit noire, personne n'habite le coin. On est en rase campagne. Et soudain, deux phares percent la nuit, au loin. Une patrouille de gendarmes. Deux gendarmes de la brigade de la Couronne. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Dans la lumière des phares, sur le bord de la route, au pied de la falaise, une voiture calcinée, encore fumante. Ils s'arrêtent, ils descendent. La voiture n'a pas fini de brûler, les roues sont encore rougeoyantes. Ils font le tour. Elle n'a pas l'air accidentée, cette voiture? Ben non. Non, elle est garée, quoi. Les deux gendarmes préviennent leur brigade, qui elle-même appelle les pompiers. Et quand les pompiers arrivent sur place, ils déploient de gros projecteurs, ils éteignent complètement le feu, et les gendarmes de la brigade d'Angoulême entrent en action. Ils font d'abord le tour de la voiture. Oh, t'as vu, c'est une Fiat, hein? Une Fiat Uno. Rouge. On voit la couleur, t'as vu? Les collègues avaient raison, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traces d'accident. Regarde les pneus, ils sont droits. Elle était garée, cette voiture. Et dis donc, regarde sur le siège. Sur le siège conducteur, un corps carbonisé, la tête rejetée en arrière. Un homme, une femme, vu l'état du corps, difficile à dire. Les gendarmes entreprennent de le sortir, délicatement. C'est pas facile, le cadavre est collé au siège. Alors ils font sortir l'ensemble par l'arrière de la voiture. Direction la morgue de l'hôpital d'Angoulême. La plaque d'immatriculation n'a pas brûlé. Et donc on a tout de suite le nom du propriétaire de la voiture. C'est une femme, Francesca Parra Palmero, 30 ans. Elle habite à Villebois-Lavalette, à 20 km. Les gendarmes tentent de l'appeler plusieurs fois. Ça sonne dans le vide. Alors ils cherchent de la famille, ils trouvent un frère, José Parra. Ils l'appellent sur le champ. Oui, monsieur Parra. Gendarmerie d'Angoulême à l'appareil. Voilà, on vient de découvrir la voiture de votre sœur, incendiée, aux Eaux Claires. Je dois vous dire qu'il y a un corps dans la voiture. Nous n'avons pas la certitude que ce soit elle, mais comme par ailleurs nous n'arrivons pas à la joindre, est-ce que vous savez où elle est? Vous pouvez vous-même la joindre?
Paquita? Bah, si elle n'est pas chez elle, je ne sais pas où elle est.
Paquita. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Mettez-vous à la place de la famille. Ils gardent un petit espoir que ce ne soit pas elle. Mais comme elle ne répond pas au téléphone...
Europe 1, on de la traconte.
« Une nuit de décembre 1998, dans la vallée des Eaux Claires à Puy-Moyen, près d'Angoulême, les gendarmes découvrent, garé au bord de la route, une voiture calcinée, au volant duquel ils trouvent un corps carbonisé. La voiture, une Fiat Uno rouge, appartient à une certaine Francesca Parra. Ils tentent de l'appeler, elle ne répond pas. Je vous le dis tout de suite, même si formellement il faut attendre le résultat de l'autopsie, les gendarmes considèrent d'entrée que c'est Francesca Parra. C'est Paquita qui est morte carbonisée au volant de sa voiture. Et tant qu'à mettre toutes les cartes sur la table, compte tenu du fait que la voiture est garée, ils pensent tout de suite que c'est un meurtre. Et maintenant, il faut des preuves. Et donc, une fois le corps retiré de la voiture, ils font venir des TIC, des techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie, qui font eux-mêmes venir un expert en automobile. Première constatation, le levier de vitesse de la Fiat Uno est au point mort. C'est cohérent avec le fait que la voiture soit stationnée. Le cadavre est écoté conducteur, la porte est fermée. Mais elle n'est pas verrouillée. Autrement dit, si l'occupant avait voulu sortir, il aurait pu le faire. Les serrures n'ont pas été forcées. Ah, le siège conducteur est reculé au maximum. Je vous lis ce qui est écrit sur le rapport de l'expert. Et concernant l'origine du feu, vous avez trouvé quelque chose ? Eh bien non. J'avoue que je ne m'explique pas à ce stade comment le feu a pu prendre. De leur côté, toujours en pleine nuit, les TIC passent l'intérieur de la Fiat Uno au crible. Ils ne trouvent aucune trace ADN. Avec le feu, c'est assez normal. Aucun impact de balle, parce que c'est une hypothèse. On tue la conductrice et on met le feu pour effacer les traces. Ça arrive souvent. Mais ils trouvent tout un tas de petits objets. Une boîte d'allumettes par terre, côté conducteur, au niveau des pédales. Un tube de quelque chose, pour l'instant on ne sait pas de quoi. Et sous le siège conducteur, une lame de cutter. Et surtout ce qui les intrigue, ça je ne vous en ai pas encore parlé, c'est le pare-brise. Le pare-brise n'est pas en place sur la voiture. Il est posé à côté, intact. Étrange. Cela dit, sur une Fiat Uno, c'est pas bien compliqué. Hein. Pour démonter un pare-brise, les joints ne sont pas collés, il suffit de faire pression sur le cadre pour le déchausser. Et d'ailleurs, sur la voiture, les points de levier sont bien visibles. Mais enfin, ça n'explique pas pourquoi quelqu'un aurait pris la peine de retirer le pare-brise avant de mettre le feu. Si ce n'est peut-être pour activer l'incendie. En tout cas, ça rend cette scène de crime un peu surréaliste. Il est 7h du matin. Le jour n'est pas encore levé. Les TIC ont terminé leur travail. La Fiat Uno est tissée sur une dépanneuse et emmenée. La route et rouverte à la circulation. Immédiatement, les gendarmes enchaînent. Ils vont chez la mère de Paquita récupérer un double de chez elle. Au passage, ils embarquent deux de ses frères et ensemble, ils vont chez Paquita à Villebois-Lavalette. La maison est parfaitement rangée. Rien ne témoigne d'un départ précipité. Apparemment, Paquita n'a pas dormi là et elle n'a pas non plus dîné là hier soir. Il manque son manteau et son sac à main. En revanche, son agenda est là, son passeport aussi, et les gendarmes trouvent une lettre de 15 pages écrite par son ex-petite amie. Ils la saisissent, bien sûr. Ils saisissent aussi des tests HIV, des tests du sida, ainsi que des relevés de compte et des photos d'elle. À ce stade, on ne sait pas formellement que le cadavre de la Fiat Uno est bien celui de Paquita Parra. On a de fortes raisons de le penser, mais on n'en est pas sûr à 100%. Est-ce que c'est pour ça que les gendarmes décident de montrer la vidéo de la Fiat Uno aux frères de Paquita ? Sans doute. Mais quelle épreuve ! Sur les images, les frères de la jeune femme voient le squelette de quelqu'un qui est sans doute leur sœur, même s'ils ne peuvent pas le jurer, évidemment. C'est le médecin légiste qui doit répondre à la question. Est-ce que c'est bien Paquita ? Ce qu'on lui apporte en vérité, C'est un tronc. Tout le reste, les bras, la tête, les jambes, est à l'état de squelette. La première chose que fait le légiste, c'est de passer le corps entier à la radio. Comme ça, on sait d'entrée si la personne a pris une balle. Mais là, il n'y en a pas. En revanche, il y a ce que le légiste appelle un fracas osseux. Une bosse, quoi, sur le côté droit du crâne. C'est intéressant parce que ça peut être une trace de coup. On la somme, on la met dans la voiture et on y met le feu. Mais c'est peut-être aussi la conséquence de l'incendie. Comme toujours, le légiste réalise des prélèvements, des morceaux de foie, des morceaux de cœur et des morceaux de poumon. Il compte là-dessus pour connaître les raisons de la mort. Et il envoie ses prélèvements au labo, on saura dans quelques jours. Et il fait une empreinte des dents du cadavre. Entre-temps, les gendarmes ont trouvé le dentiste de Paquita, il leur a fait passer sa dernière radio dentaire. Et là, on compare. Et il n'y a plus aucun doute, il s'agit bien de Paquita Parra. Et on sait comment on a mis le feu à la voiture. Le labo vient d'envoyer les résultats des prélèvements réalisés sur le plancher de la voiture.
C'est bon, c'est bien ce qu'on pensait. Ils ont trouvé des traces d'essence dans les prélèvements qu'on leur a envoyés. Donc c'est un incendie volontaire. Et donc c'est un meurtre.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Paquita Parra, dont on retrouve le cadavre en décembre 1998 dans sa voiture carbonisée, garée dans la vallée des Eaux Claires, près d'Angoulême, en Charente. Sa Fiat Uno a été arrosée d'essence, donc c'est un crime. On ne connaît pas encore les causes de sa mort. A-t-elle été tuée avant ou par l'incendie? Pour répondre à la question, on compte beaucoup sur les résultats des analyses, sur les prélèvements réalisés par le légiste. Les premières analyses à tomber sont les analyses de son foie. On y a trouvé des traces d'antidépresseurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça ouvre une autre piste qu'il ne faudrait pas totalement écarter d'emblée. Le suicide. Elle arrose elle-même sa voiture d'essence et elle met le feu pour en finir. C'est possible. Mais alors pourquoi le siège conducteur est-il reculé à fond? Paquita mesurait 1,57 m. Bien sûr, on peut envisager qu'avant de mettre fin à ses jours, pour se donner de l'air, pour se donner du courage, Paquita recule son fauteuil. Cela dit, on va fouiller chez elle. On ne trouve pas une seule boîte de médicaments antidépresseurs. Et pas une seule ordonnance. Et pas même la trace d'un rendez-vous avec un médecin. Et encore moins avec un psychiatre. Les gendarmes interrogent ses 5 frères, sa mère et son ex-petite amie. Un suicide? Ah non, non. Papa Quitose, ça colle pas du tout. Elle allait plutôt bien. Je vois rien qui aurait pu l'amener à se suicider, rien. On se dit que peut-être elle a pu utiliser la lame du cutter qu'on a retrouvée sous le fauteuil passager pour se trancher les veines. On passe la lame au labo, pas de traces de sang. Et là-dessus tombent les analyses des poumons. Et ça referme définitivement l'hypothèse d'un suicide. Il n'y a pas de traces de carbone dans ses poumons. Il n'y a pas de suie. Ça veut dire qu'elle n'a pas respiré les fumées. Et ça veut dire qu'elle était déjà morte quand on l'a mis le feu. Ça n'est pas un suicide. C'est un meurtre. Maintenant, c'est sûr. Et c'est même un assassinat. Et d'ailleurs, le parquet d'Angoulême ouvre une information judiciaire pour assassinat. Alors maintenant, qui? Qui a tué Francesca Parra, dite Paquita, 30 ans, jolie, très jolie même, d'origine andalouse, unique fille d'une fratrie de 6 enfants, très proche de sa mère et de ses 5 frères. Surtout depuis la mort de son père il y a 10 ans. Qui? Professionnellement, Paquita Parra travaillait au service des achats d'un hypermarché de la banlieue d'Angoulême. Elle gagnait 5 280 francs par mois. Traduire en euros d'aujourd'hui n'aurait aucun sens, tout a tellement augmenté en 20 ans. Elle vivait bien, pour résumer, au point d'ailleurs de s'être acheté cette maison à Villebois-Lavalette. Sentimentalement maintenant, Paquita était ce qu'on appelle une femme libre. Elle a enchaîné les histoires d'amour. Elle butinait un peu de ci, de là, à la recherche de l'homme de sa vie. Et depuis 8 mois, elle fréquentait un collègue de travail. Les gendarmes commencent par reconstituer son emploi du temps le jeudi 3 décembre, au soir duquel on retrouve son cadavre calciné. Direction le supermarché où elle travaillait.
Ah ben le jeudi 3, elle est venue travailler, normalement. Vous avez une idée de ses horaires ce jour-là? Bah, elle est arrivée à 8h du matin, je dirais même 8h moins 10. Elle arrive souvent en avance. Et puis elle a quitté vers 5h, 5h15. Enfin, c'est ses horaires normaux, quoi.
Un voisin de Villebois-Lavalette la voit devant chez elle un quart d'heure plus tard, à 17h30. Et ça, c'est un peu étrange, parce que normalement, d'après ce que dit la famille, hein, quand elle sort du travail, Paquita passe voir sa mère, quasiment toujours. Mais pas ce jour-là. Quoi qu'il en soit, à 18h, elle passe voir son frère, Jean-Marie, à son garage. Il est mécanicien et il a la voiture de son petit ami en révision. Et enfin, à 18h15, elle se rend à la gendarmerie de Villebois-Lavalette, figurez-vous. Au mois d'août dernier, on lui a volé son chéquier. Elle a un rendez-vous avec un gendarme samedi prochain. Mais elle veut anticiper ce rendez-vous. Et ce que raconte le gendarme qui l'a reçu est très intéressant. Elle m'a dit... Samedi, ça sera trop tard. Je veux vous parler ce soir. Mais moi, je lui ai dit qu'elle revienne dans 2 jours, comme c'était prévu. Et là, elle m'a dit un truc très étrange. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me mettre sur écoute? Elle m'a dit que ça la rassurerait. J'ai expliqué que c'était pas possible, qu'on mettait pas les gens sur écoute comme ça. Et d'ailleurs, rarement à leur demande. Je lui ai dit de revenir samedi, comme prévu, et qu'on verrait. Et donc, elle est partie. Mais elle était nerveuse, hein. Très intéressant. Quelques heures avant son assassinat, elle a peur de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Et donc après, elle rentre chez elle vers 19h. Et ensuite, elle ressort, ce qui n'est pas dans ses habitudes. À quelle heure exactement, on ne sait pas. Ou, on ne le sait pas non plus. Et donc, les gendarmes lancent un appel à témoins dans la presse régionale. Et un homme se manifeste.
Oh, mais je suis certain! J'ai vu sa voiture garée aux eaux claires, je dirais vers les coups de 10h moins le quart. Et puis je suis repassé une demi-heure plus tard dans l'autre sens, donc vers 10h15. Et là j'ai vu sa silhouette dans la voiture. Elle m'a vu aussi d'ailleurs. Elle a tourné la tête et a fait semblant de chercher quelque chose là, dans son vide-poche. Elle était seule, j'en suis certain. Et donnait l'impression d'attendre quelqu'un.
Paquita avait rendez-vous avec quelqu'un.
On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Paquita Parra, que je débrieferai dans un instant avec son frère, David. En décembre 1998, on retrouve le corps de Paquita carbonisé dans l'incendie de sa voiture sur une route de campagne dans la vallée des Eaux Claires, près d'Angoulême. Sa Fiat Uno a été arrosée d'essence, donc c'est un crime. L'autopsie révèle qu'elle a été tuée avant l'incendie. Le jour de son meurtre, en fin d'après-midi, elle est allée à la gendarmerie pour demander à être placée sur écoute. Un témoin la voit ensuite garée aux Eaux Claires, comme quelqu'un qui a rendez-vous. Un deuxième témoin se manifeste, qui va permettre d'établir l'heure du crime. Il a vu des flammes au loin, ce soir-là.
Et il était quelle heure? Oh, je dirais qu'il était 23h30.
Donc, le crime a lieu entre 10h moins le quart, heure à laquelle le premier témoin la voit vivante dans la voiture, et 11h30, heure où le second témoin voit au loin la Fiat Uno qui brûle. Un laps de temps d'1h30. À part ça, pour l'instant, on en est réduit à des hypothèses. Est-ce qu'elle connaissait son assassin? Le fait qu'elle attende dans la voiture semble indiquer que oui. Est-ce qu'alors quelqu'un la faisait chanter? Est-ce que ça a un rapport avec le vol de son sac à main et de son chéquier il y a 4 mois? Ses proches, sa mère, ses frères, sa nièce racontent en tout cas que depuis quelques mois, Paquita était tendue. Elle était inquiète. Elle sursautait au moindre coup de téléphone. Elle avait changé. Alors à cause du rendez-vous dans ce coin isolé et aussi à cause des nombreux tests archivés qu'on a retrouvés chez elle, les gendarmes se disent que peut-être elle se prostituait. Du coup, elle aurait pu être tuée par un client. Mais rien, rien ne conduit sur cette piste. Et donc, on finit par s'intéresser à sa vie sentimentale. Je vous l'ai dit, au moment de sa mort, Paquita a un copain, un collègue du supermarché. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Et franchement, depuis sa mort, il n'est pas très présent. La famille le trouve un peu distant. Alors les gendarmes vont le voir. Bon, vous savez, entre nous, c'était juste une relation comme ça, quoi. C'était pas le grand amour. On n'avait pas de projet. On se voyait, c'est tout. Le monsieur n'est pas très amoureux, mais ça n'en fait pas un assassin. Il est interrogé sur son emploi du temps du 3 décembre. Il dit qu'il a regardé un match de foot à la télé, c'était un match de Coupe d'Europe. On lui demande de raconter le match, il donne tous les détails. Son alibi a l'air solide. Mais les gendarmes le placent quand même sur écoute. Et un jour, ils entendent parler de Paquita à sa mère.
« Oh celle-là ! Quelle salope !»
Étrange manière de parler d'une morte avec laquelle on entretenait une relation sentimentale. Avant ça, Paquita est restée 4 ans avec un autre garçon. Un artiste peintre, du genre assez possessif, hein, d'après ce que dit la famille.
Oh, c'était chaud entre eux. Elle m'a raconté qu'il l'a frappé. Nous, on voulait plus le voir, en tout cas. C'était un sale type.
A priori, Paquita a rompu avec lui en janvier 1998, 11 mois avant son assassinat. Mais en vérité, on s'aperçoit qu'ils ont continué à se voir. Des témoins racontent qu'ils les ont vus au restaurant et même dans un hôtel. Ils sont restés amants. Paquita donc menait une sorte de double vie, avec un régulier, son collègue de supermarché, et un amant, son ex. Les gendarmes pensent que c'est là, dans ce sac de nœuds, que se situe le mobile du crime. Chez Paquita, il retrouve un tableau peint par l'ex. Il le retourne. Au dos est inscrit un étrange message. Un poison pour un venin. Il perquisitionne son domicile, il trouve des tickets de caisse. Le jour du meurtre, vous entendez le jour du meurtre, le monsieur a acheté des gants en latex et 3 bidons d'essence. Et puis vous vous souvenez du tube qu'on avait retrouvé dans la voiture incendiée? On ne savait pas ce que c'était. Eh bien d'après le labo, c'est de la gouache. Or l'ex est peintre. Quant à la lame de cutter, elle pourrait être aussi à lui. Il s'en sert parfois comme d'un couteau pour étaler sa peinture. À ce stade, tout nous oriente vers lui, vers l'ex. Et donc il est mis sur écoute. Et les gendarmes le gardent à l'œil, d'autant que la famille est absolument persuadée que c'est lui l'assassin. Et ils font travailler une profileuse. Bon, vous savez ce que je pense des profileurs, hein. À ce jour, sauf dans les films, je n'en ai jamais vu un seul résoudre une affaire criminelle. Mais à la fin des années 90, c'est à la mode. Et donc la profileuse travaille sur le profil de l'ex. Et elle en conclut, tenez-vous bien, que c'est un psychopathe. Un psychopathe? Bah, il est peut-être temps de le placer en garde à vue. Alors, le psychopathe.
Monsieur, qu'avez-vous fait le soir du meurtre de Mademoiselle Parra? Bah, j'ai dîné au restaurant, avec un ami à moi.
Quel restaurant?
La Bonne Franquette, à la Couronne. Je peux même vous dire qu'on a été les derniers à partir du restaurant.
La Bonne Franquette se trouve à 10 km des lieux du crime. Le patron du resto est interrogé.
Ah oui, ils étaient chez moi.
Et à quelle heure sont-ils partis?
Oh, 10h30, je dirais.
10h30? Est-ce qu'il a le temps d'aller ensuite aux Eaux Claires et de commettre le crime? Ben oui. Et donc l'ex est mise en examen et écrouée à Angoulême. A priori, l'enquête sur l'assassinat de Paquita est bouclée. L'assassin est en prison. Sauf que les parents de l'ex engagent un détective privé, Roger Marc Moreau, un bon, qui démontre que, quand il quitte le restaurant, l'ex de Paquita rentre chez lui directement. Ce soir-là, il y avait un film à la télé avec Jerry Lewis. Il raconte le film en détail et notamment un gag qui survient 7 minutes après le début du film. Et puis son avocat s'étonne à juste titre qu'une profileuse ait pu établir que l'ex était psychopathe sans jamais l'avoir rencontré. Remarque assez fondée. Le profilage est une science extrêmement molle. Et donc petit à petit, le dossier d'accusation se vide. Et après 11 mois de prison, l'ex est libéré et sa mise en examen annulée. Mieux que ça, la juge d'instruction est considérée comme partiale. Et décision extrêmement rare, on lui retire le dossier. Dans cette enquête, tout est à refaire.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Paquita Parra, que je vais débriefer dans un instant avec son frère David. En décembre 1998, on retrouve le corps de Paquita Parra, carbonisé dans l'incendie de sa voiture sur une route de campagne dans la vallée des Eaux Claires, près d'Angoulême. L'enquête révèle qu'elle a été tuée avant l'incendie et sa voiture ensuite arrosée d'essence. L'un de ses ex est arrêté et mis en examen sur la base d'un rapport d'une profileuse qui le désigne comme psychopathe. Mais la juge est dessaisie pour partialité et l'ex est libéré. L'enquête recommence à zéro. Avec toujours comme pivot la vie sentimentale agitée de Paquita. Sauf que les années passent et on ne trouve rien. Mettez-vous à la place, une fois de plus, de sa maman, de ses 5 frères. On avait trouvé un coupable, on l'a innocenté. Et depuis, rien. Pendant 12 ans, vous entendez ? 12 ans. Rien. Rien de neuf. Et assez logiquement, en octobre 2010, le parquet rend une ordonnance de non-lieu. Le dossier d'instruction est refermé. Il est rangé dans une boîte. La mort de Paquita restera non résolue. En 2013, la famille participe à une émission de télé non élucidée sur France 2. Elle espère que ça va relancer l'enquête. Une seule personne se manifeste. Un employé de banque qui vient dire que l'un de ses clients s'est accusé devant lui d'être l'assassin. Le problème, c'est qu'il est mort depuis. Et puis, dernier rebondissement, très récent, qui date de septembre 2017. Un professeur d'art plastique du lycée de Puy-Moyen envoie ses élèves en forêt, tout près de l'endroit où Paquita a été tuée, pour ramasser des objets insolites qu'ils devront ensuite utiliser dans une composition artistique. Et l'une des élèves trouve dans le bois une boîte en plastique rose. Elle l'ouvre. Dedans, il y a un chéquier du Crédit Agricole au nom de Francesca Parra. Et une carte Auchan au même nom. Et une carte Conforama. Et une carte Club Dial. Et un pull de couleur verte. Elle se dit, c'est formidable. Voilà des objets très insolites pour ma composition artistique. Et donc, elle les touche, elle les manipule, elle les utilise pour son projet scolaire. Et pendant 9 mois, elle garde la boîte chez elle. Et puis un jour, par curiosité, elle tape le nom de Francesca Parra sur Internet. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a été assassinée. Et donc, un peu penaude, elle va porter sa boîte rose aux gendarmes 9 mois plus tard. Est-ce que ça va permettre de relancer l'enquête ? Pour l'instant, on n'en sait rien.